Salut, ici Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias. Nous sommes cette semaine avec une journaliste qui couvre depuis 2011 le conflit en Syrie pour la presse française.
Je suis Hala Kodmani, je suis journaliste à Libération. J'ai beaucoup travaillé sur la Syrie, où je me suis rendue sur place quand c'était possible. Et notamment en 2013, où j'ai pu aller à Raqqa, au moment où l'État islamique venait de s'emparer de la ville et contrôler toutes les entrées de la ville, mais pas encore, n'avait pas encore imposé complètement son ordre dans le pays.
Hala Kodmani vient de publier un court ouvrage, son titre « Seul dans Raqqa ». À l'heure où cette ville, capitale du groupe État islamique, est dans le viseur de toutes les forces internationales, régionales et locales opposées à l'organisation djihadiste, alors qu'elle est encerclée et que ses jours sous la bannière noire et blanche semblent compter, nous avons choisi de consacrer notre émission à ce livre et au travail de son auteur. Ceci d'autant plus que « Seul dans Raqqa » est construit autour d'un parti pris audacieux, faire revivre, grâce à sa présence sur Facebook, une des premières victimes notables de Daesh, la blogueuse, chroniqueuse et citoyenne journaliste Rukia Hassan, plus connue sous son pseudonyme Nissan Ibrahim. Plongée pendant une heure dans les réalités d'un conflit qui n'a que trop duré, au cœur d'une bourgade célèbre malgré elle, aux côtés d'une jeune femme discrète et courageuse, elle aussi connue sans l'avoir souhaité, Rukia Hassan, avec Hala Kodmani au micro de Constance Léon.
Je suis franco-syrienne et j'ai commencé très tôt, donc évidemment dès le début de la révolution syrienne en 2011. J'avais évidemment un accès privilégié à la fois au pays et à l'information et au contact sur place, ce qui m'a permis souvent de pouvoir être vraiment au plus près des événements, que ce soit dans tout le pays, au début au Damas, et puis par la suite dans les zones contrôlées par l'opposition, où je pouvais passer et faire mes reportages.
Vous avez déjà écrit deux livres, un sur les réfugiés en Cisjordanie et un autre sur la Syrie. Comment avez-vous décidé d'écrire sur Raqqa ?
L'envie d'écrire sur Raqqa, c'était vraiment, j'avais envie de parler de cette ville. Parce que cette ville qui était complètement inconnue et un petit peu ingrate par rapport aux autres villes syriennes, bon, elle était complètement inintéressante sur le plan touristique ou archéologique, etc. Et quand je me suis rendue sur place, j'ai été très attachée. J'ai trouvé cette ville très très attachante et sa population notamment. Et puis le fait de voir tout d'un coup Raqqa devenir dans la tête de tout le monde avec à cause de Daesh, devenir un peu la capitale de l'enfer, mondialement célèbre, tout le monde parlait de Raqqa parce qu'on avait peur de Raqqa, parce que les djihadistes allaient à Raqqa, parce que tout ça, et je voulais un petit peu redonner à Raqqa sa dignité, son identité, sa vérité, et donc c'était ça. Au départ, je voulais faire un livre sur Raqqa. Évidemment, j'ai pensé à le faire à travers un témoignage, le témoignage de quelqu'un de la ville. J'avais plusieurs options parce que je connaissais plusieurs personnes engagées qui avaient fait de la résistance aussi bien au début de la révolution qu'après face à Daesh. Et puis je suis tombée en fait sur cette l'histoire de cette jeune femme qui est mon héroïne, donc qui a écrit un peu ce livre avec moi, qui est donc cette jeune femme dont on a découvert l'existence au moment de sa mort, début 2016, qu'elle s'appelait sur Facebook Nissan Ibrahim, c'était son pseudo, et elle avait été exécutée donc par Daesh, ce qui est très rare pour une femme d'être exécutée pour des raisons de résistance et politique. Et donc je suis allée un petit peu à la recherche de cette jeune femme, et là je suis tombée sur un trésor qui était sa page Facebook, puisque elle a tenu sur sa page en quelque sorte une chronique de sa vie et de la situation en Syrie et à Raqqa de 2011 jusqu'à peu avant sa mort, vers la moitié de l'année 2015. Et c'était une découverte très particulière parce que, comme beaucoup de jeunes activistes sur Facebook, elle est tantôt léger, tantôt grave, tantôt amusant, tantôt dramatique. Et bon, c'est une jeune femme qui avait quand même fait des études de philo, qui avait donc un certain niveau culturel, et en même temps, qui racontait un quotidien, un vrai engagement, du moins un engagement de principe, même si elle n'était pas trop visible dans la rue ou dans l'action à proprement dite.
A young woman who lived in the ISIS stronghold of Raqqa spoke out against the terrorist group and was killed for it. 30-year-old Rukia Hassan was killed sometime late last year by ISIS militants, but her family was only notified of her death this week. ISIS reportedly told her family she had been executed for espionage.
30-year-old Rukia Hassan, who wrote under the pen name Nissan Ibrahim, often posted information online about the daily lives of residents living in ISIL-controlled Raqqa.
Bon, j'ai été choquée, évidemment, quand, en apprenant qu'elle avait été exécutée. Là, tout le monde l'a découvert et on a parlé de cette... Et comme j'étais allée à Raqqa, que j'avais continué à garder des contacts, de suivi avec tous les milieux un petit peu démocrates, activistes, etc. Je m'étonnais surtout, je me suis étonnée de comment ça se fait que je n'avais pas connu cette jeune femme avant, comment j'ai pas vu sa page Facebook. Et là, j'ai découvert, quand je suis allée dessus, qu'on avait une vingtaine d'amis en commun sur Facebook. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre contact avec eux, les uns et les autres, en leur disant, vous l'avez rencontrée, vous l'avez connue, qui est-elle, comment est-elle, etc. Et plus je lisais sa page, ses posts, au quotidien, le fil de ses chroniques, et je faisais des liens après, et donc j'ai décidé de faire l'enquête sur sa vie, sur tout ce qu'elle avait traversé, et de reconstituer un petit peu son parcours avec elle, puisque c'est avec ses propos sur Facebook, mais aussi en complétant par l'enquête, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas, par peur de la censure, par peur de la surveillance. Et j'étais très intriguée par ce personnage, parce que elle peut être des fois très sérieuse, très avec une analyse, avec une approche, et des fois très légère, très triviale, même drôle, anecdotique, et tout ça. Et bon, en remontant donc, j'ai pris contact avec les différentes personnes qu'il avait connues. Très peu l'avaient connue personnellement d'ailleurs. Hein. Ça reste en grande partie un personnage de réseaux sociaux, et quelque part, pas une vraie. J'avais du mal à l'incarner. Et ça a été l'essentiel de mon travail, c'est quand j'ai enfin pu trouver quand même deux ou trois personnes qui connaissaient sa famille, qui connaissaient son quartier, qui l'avaient rencontré pour de vrai, j'ai voulu reconstituer vraiment sa vie au jour le jour et compléter ce qu'elle ne disait pas dans ses posts Facebook, en reprenant vraiment la réalité. Et c'est en même temps sa réalité, mais pour moi, c'était aussi reconstituer tout le parcours de Raqqa, de la ville qui a connu quand même une destinée exceptionnelle à travers depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Quand éclate la révolution en mars 2011, elle vit encore à Alep et termine sa dernière année de licence.
Chaque fois que je m'assoupis, le fil des souvenirs se déroule. Il me ramène aux jours heureux que nous trouvions amers. Quand j'enseignais à Alep au début de la révolution, on partait pas le vendredi à cause des manifestations et des fusillades. Pourtant, quel beau jour! Malgré la peur, nous étions vaillants. On s'est préoccupé ni d'amour, ni d'argent, ni de pouvoir. Notre cause était plus noble. Il s'agissait de la liberté d'un peuple.
Une rebelle voit le jour en même temps qu'une génération et un pays au printemps 2011. Comme tous les Syriens, Nissan a suivi jour après jour, à la télévision et sur les réseaux sociaux, les avancées des révolutions tunisiennes, égyptiennes, puis libyennes et yéménites. Ces soulèvements viennent à point nommé pour Nissan, qui a mûri intellectuellement. Elle réalise que les idées et les valeurs dont elle s'est imprégnée au cours de ses études sont descendues dans la rue. Elle n'a plus qu'une question à la bouche, une question brûlante. La contagion contestataire atteindra-t-elle la Syrie ?
Dans le livre, vous alternez des passages des publications de Nissam Ibrahim, celles qu'elle poste sur sa page Facebook, sur son profil Facebook, et avec un récit de l'histoire de Raqqa de 2011 à 2015. Donc, quelle est cette histoire ?
L'histoire, c'est que, bon, Raqqa, comme je disais, c'est une ville pas très grande importance, qui est un peu enclavée, enfin qui est un peu isolée là, dans l'est syrien, une zone plutôt désertique, mais il y a l'Euphrate qui passe, et ça, elle a la particularité d'être une ville un peu nouvelle, surtout sur le plan de la population, parce que c'est une ville qui a été longtemps abandonnée pendant des siècles, et qui a recommencé à vivre depuis un siècle et demi, je crois, à la fin du 19e siècle, simplement. Et la population qui est venue à Raqqa est très diversifiée. Elle est venue de partout en Syrie. Il y avait des tribus au départ locales, mais après, il y a eu des apports de population de partout. Donc ça fait une ville qui était très nouvelle, un peu moderne, du moins dans l'esprit, et une population très diversifiée, qui a notamment augmenté considérablement dans les années 1970, à partir des années 1970, avec la construction d'un grand barrage sur l'Euphrate, qui a amené donc des ingénieurs, des familles, une administration pour gérer ce projet. Et donc Raqqa, pendant la première année de la révolution, était inexistante, n'a pas bougé, il n'y avait pas de manifestation, mais il y avait quand même, chez certains, notamment certains jeunes, un enthousiasme exprimé pour la révolution, un espoir que la dictature serait renversée et qu'un nouveau système puisse émerger. Et après, elle s'est réveillée un an après, il y a eu à ce moment-là beaucoup plus de manifestations réprimées, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été tués par les forces de l'ordre, etc. Et alors le phénomène, c'est que Raqqa, qui est la dernière capitale de province syrienne, était la première à être libérée, comme on dit, c'est-à-dire à passer hors du contrôle du régime de Bachar al-Assad, et qui a connu donc au printemps 2013, c'est en mars 2013, au printemps 2013, il y a eu un printemps de Raqqa qui a été très bref, mais très très intense, et tous les gens que j'ai rencontrés par la suite, les jeunes qui ont participé à ce mouvement, raconte jusqu'aujourd'hui avec ivresse ce moment extraordinaire qu'ils ont vécu quand la ville n'y avait pas de contrôle et c'était autogéré et tout s'organisait et plein de projets naissaient et tous les jeunes avaient des idées en tête, se mettaient à publier des journaux, à faire du travail social, culturel, tout ça. Et au milieu de tout ça, on font irruption les djihadistes de Daesh, dont on ignorait tout à ce moment-là, et qui n'ont pas inquiété outre mesure au départ, et comment petit à petit ces monstres grandissent à l'intérieur de la ville et commencent à imposer leurs lois à toutes les autres forces et mouvements qui étaient dans la ville, et jusqu'à le plonger dans vraiment l'ordre de Daesh, c'est-à-dire le totalitarisme djihadiste extrémiste, en imposant toutes les lois aux gens au quotidien, dans l'habillement, dans le comportement, dans les habitudes, etc.
Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, n'ont pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas. On laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée, les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, n'ont pas d'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies, les enfants claquent les doigts car la musique, c'est la loi. La 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 la, vous êtes tous invités, mais quand même ce quartier faudra l'inventer.
Pendant qu'ailleurs en Syrie les rues bouillonnent et que le sang coule, Raqqa ne sort pas de sa torpeur. Indifférent, soumis, complice, apeuré, endurci ou tout simplement acclimaté à la dictature, ses habitants capitulent. Ne sont-ils pas redevables d'une certaine manière au régime d'Assad d'avoir favorisé la perle de l'Euphrate ? En faisant de Raqqa le centre administratif du principal projet de développement de la Syrie bassiste, le régime a permis à la ville de connaître un essor économique et démographique prodigieux.
Et comment justement Nissam Ibrahim s'incarne dans cette histoire de Raqqa que vous avez voulu raconter dans le livre ?
Ben c'est justement, elle est vraiment le témoin privilégié, puisque elle est restée à Raqqa la plupart du temps, qu'elle observait ça à la fois en témoin privilégié parce qu'elle voyait tout ce qui se passait, mais en même temps elle était effacée, c'est-à-dire qu'elle ne participait pas directement, elle n'était pas dehors, elle continuait sa vie, elle était enseignante après avoir eu son diplôme, elle enseignait dans un collège, dans un lycée, elle travaillait donc, et puis elle avait ce regard qui était vers sa ville, sa propre ville, qu'elle voyait petit à petit se métamorphoser à des moments avec beaucoup d'enthousiasme, comme je disais, au moment où le printemps de Raqqa, c'était un très grand moment d'enthousiasme, y compris pour elle, où elle a commencé enfin à sortir, à participer à des réunions, à des rencontres avec tous les différents jeunes qui faisaient des projets. Et puis, elle continue d'avoir ce regard à la fois très concerné, parce que c'est sa ville, parce qu'elle est très attachée, parce qu'elle a eu un rêve, elle a rêvé d'un avenir de démocratie, de liberté, de progrès, et en même temps de voir petit à petit plonger cette ville irrésistiblement et sans la possibilité d'arrêter ce mouvement terrible qui est l'emprise de la terreur de ces djihadistes qui sont venus investir et qui sont venus de l'extérieur, et c'était important, et elle le dit très souvent dans sa page, c'est vraiment d'abord des intrus, mais après de véritables envahisseurs qui sont venus d'Irak, puis qui sont de Tunisie, qui sont venus, et puis on voit petit à petit comment tout d'un coup elle se sent humiliée aussi, parce que ce sont des Tunisiens, des Ouzbeks ou des Saoudiens ou n'importe quoi qui viennent imposer leurs lois à elle, fille de Raqqa, et lui imposer au quotidien, évidemment, son habillement, sa démarche, ses habitudes, tout ça.
Les djihadistes femmes, en abaya, se promènent dans les rues Kalachnikov à l'épaule. Elles se montrent tout aussi zélées que leurs hommes. Le plus souvent égyptiennes ou maghrébines, comme on le devine à leur accent, les membres de la police islamique féminine usent d'un langage vulgaire et agressif pour réprimander leurs « sœurs en islam », comme elles les appellent.
Aujourd'hui, dans le souk, une djihadiste tunisienne m'a fait une remarque sur mes habits. Je l'ai ignorée, sans même me retourner, puisque je portais strictement la tenue réglementaire. Mais j'aurais voulu avoir un revolver à la main pour vider le chargeur dans sa tête. Non pas parce que je suis sadique ou sanguinaire, mais parce qu'il m'a tuée au fond de moi. J'étais morte d'humiliation, morte de rage, d'injustice. J'en ai assez d'être un paillasson, assez de la torture physique et morale, assez de leur arrogance, de leur offense, assez d'être une citoyenne de 10e classe, alors qu'ils sont en première.
C'est la pause dans l'atelier des médias. Restez avec nous. Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec la journaliste franco-syrienne Hala Kodmani, auteure de « Seul dans Raqqa », un court ouvrage consacré à l'histoire de cette ville, Raqqa, capitale du groupe État islamique, et consacré également à Rukia Hassan. Rukia Hassan était enseignante de profession, elle s'est rendue célèbre grâce à ses textes critiques de l'État syrien et de Daesh, publiés sous le pseudonyme Nissan Ibrahim sur Facebook. Elle a été exécutée durant l'été 2015 à une date inconnue. Hala Kodmani est au micro de Constance Léon.
Mon projet de départ, c'était de raconter l'histoire de Raqqa. Donc, il y a deux héroïnes dans ce livre. Il y a la ville et il y a Nissan Ibrahim qui est cette jeune femme qui s'exprime dans sa ville. Donc, c'était absolument indispensable de raconter, de faire le récit des événements au quotidien. D'abord parce qu'elle, complètement dedans, passe à côté, ne raconte pas toujours dans le détail les tenants et les aboutissants. Pour un lecteur qui ne connaît pas le terrain, je crois que présenter sa page telle qu'elle est, ou tous les posts qu'elle a mis, c'était incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne raconte pas les choses à la base. Elle les commente, elle les accompagne, elle les enrichit. Mais il fallait absolument restituer la trame des événements et la chronique. Bah, c'est mon travail de journaliste, quoi. J'ai complété par mon travail de journaliste. Elle, son apport, c'est le témoignage, c'est le ressenti, c'est les humeurs, c'est les espoirs, les désespoirs, les chocs et tout ça. Et moi, je devais l'accompagner comme journaliste pour expliquer autour qu'est-ce qui se passait en réalité, comment ça se passait aussi bien à Raqqa, autour de Raqqa, mais aussi en Syrie en général, puisque évidemment, mon héroïne réagit aussi en tant que Syrienne aux différents événements dans l'ensemble du pays, voire même parfois des événements mondiaux qui concernent la Syrie.
Toujours cachée derrière son pseudo, elle compte de plus en plus de sympathisants sur Facebook, y compris des Irakiens qui subissent comme elle la loi de Daesh, mais aussi d'amis plus malveillants. Si elle se sent moins seule depuis quelque temps, elle sait aussi qu'elle est repérée et surveillée par les services et les agents de Daesh.
La meilleure réponse aux chiens qui aboient n'est-elle pas d'aboyer plus fort qu'eux? Alors renchérissons et tant pis pour moi et pour mes ennemis. Daesh, nous sommes des musulmans et nous le resterons malgré vos mentalités pourries. J'ai rêvé de devenir un martyr. Est-il possible que je sois tué par les dirigeants? Leurs chiens aboient, menacent et insultent. Juillet 2014. Quand ils m'adressent leurs pires menaces parce que j'ai la langue trop pendue, j'ai envie de répondre avec les mots les plus grossiers. Mais finalement, je me ravise pour ne pas anéantir le fruit de mon travail. Menacez autant que vous voudrez. Nous allons vous vaincre et vous juger devant Dieu. Attendez, nous sommes patients.
Vous écrivez aussi à plusieurs reprises que cet engagement de Nissan Ibrahim n'est que virtuel, comme vous l'écrivez, comme d'autres enfants du printemps arabe. Pourtant, elle sait que les publications qu'elle écrit sur Facebook vont la conduire à la mort. Est-ce que c'est cet engagement, au fond, qui vous a donné envie de comprendre qui elle était vraiment?
Bon, elle est allée au bout d'un engagement que je connaissais. Ayant suivi l'actualité syrienne et tout le développement de la crise, puis de la révolution, puis de du conflit, j'ai retrouvé chez elle beaucoup de ce que j'ai retrouvé chez beaucoup de jeunes qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux. Mais elle a la particularité d'être allée au bout du voyage, c'est-à-dire d'être restée à Raqqa jusqu'au bout et jusqu'au sacrifice, en fait. Sachant que, quand même, et c'est ça qui lui a donné une certaine liberté d'expression et qu'on peut voir, c'est qu'elle était cachée sous un pseudo. Et elle se pensait complètement protégée par son pseudo, puisque dans la vie de tous les jours, elle s'appelait Rokia Hassan, elle était enseignante, elle avait une famille, elle avait une adresse, tout le monde qu'on pouvait savoir, alors que sur Facebook, c'était Nissan Ibrahim, et que personne ne pouvait faire le rapprochement entre les deux. Et bon, cette identité virtuelle lui a donné une certaine liberté, latitude et possibilité d'exprimer des choses qu'elle n'aurait jamais pu exprimer à cause d'abord de la surveillance du régime pendant un certain temps et puis par la suite des services de l'État islamique qui contrôlaient et surveillaient eux aussi les gens sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est ce dédoublement de personnalité. En quelque sorte, elle se cache derrière son pseudo, même si, à un moment donné, elle sait qu'elle va au bout de son engagement, dans ce sens que dit, bon, même si son identité devait être connue, même si on devait finalement découvrir que c'était elle qui se cachait derrière cette expression ou ces posts virulents et engagés, la vie ne valait plus la peine d'être vécue dès lors que tous ces espoirs ont été déçus.
Est-ce que c'est une forme d'admiration pour vous, journaliste franco-syrienne, que de voir cet engagement jusqu'au bout, comme vous le dites, alors que d'autres ont choisi de quitter Raqqa ?
C'est certain. C'est certain que j'ai vu partir les uns après les autres, les vagues de jeunes et de démocrates et d'activistes de Raqqa, qui n'avaient pas le choix souvent. Hein, c'était ça ou mourir, ou ça ou croupir dans une prison de Daesh. Donc, ça a été... Il y avait de très rares témoins qui sont restés jusqu'au bout pour continuer à insuffler ce que Nissan Ebrahim a continué à dire jusqu'au bout. Il est certain, j'avais plus que de l'admiration, j'ai du respect, j'ai eu de l'affection. C'était une complicité qui est née au fur et à mesure que j'écrivais, que je reprenais, que je traduisais ces posts, que je les remettais en français, que je les remettais en ordre, etc. Au point qu'à la fin, quand j'ai terminé le livre, elle m'a manqué, elle me manque vraiment. Alors que je ne l'ai jamais connue personnellement, ça c'est très important. Je ne l'ai découvert qu'à sa mort. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a existé comme si c'était quelqu'un de proche, que j'ai en quelque sorte fréquenté, avec qui que j'ai accompagné, que j'ai suivi pendant tous les mois où j'ai écrit ce livre, en reprenant son récit.
Alors, mais justement, enfin, vous parliez tout à l'heure du fait qu'elle soit une personnalité, une identité virtuelle. Et c'est une question qui semble vraiment vous tarauder. Elle est assez omniprésente dans le livre, parce que vous interrogez en permanence la personnalité des personnages entre leur identité virtuelle et leur identité réelle. Et est-ce que ça représente une des difficultés que vous avez eues pour l'enquête qui a construit ce livre ?
Ça a été une difficulté, pas vraiment, parce que je suis un peu habituée à ça. En couvrant la question syrienne, et je veux vous dire, il y a plein de jeunes avec qui j'ai travaillé, parce que j'ai fait des formations de jeunes journalistes, qui ont tous une double identité, parce que depuis le début, sur les réseaux sociaux, ou pour des raisons professionnelles, quand ils devaient faire quelque chose, ils étaient obligés de signer d'un autre nom et d'être identifié même par leur entourage direct par un autre nom. Et comme ça, et très souvent, j'ai eu des gens que je connaissais sous le nom de Tarek depuis des années et je découvre tout d'un coup qu'il s'appelle Wally dans la réalité. Et que tout d'un coup, un ami d'enfance les appelle différemment ou quelqu'un de leur famille les appelle différemment. Donc, c'est un phénomène que je connaissais. Et c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'est vrai que ça a fait des doubles identités, mais complètement assumées et complètement contrôlées par beaucoup de... Et bon, Nissan Ebrahim est l'une d'entre elles qui a assumé sa double identité alors qu'elle était en famille, que même sa famille ne savait pas quel était son pseudo sur Facebook, que même ses plus proches amis ne savaient pas. Moi, les gens qui la connaissaient, que j'ai recontactés, je leur disais, vous avez connu Rukia Hassan ? Et là, ils me disaient non. Et après, je leur disais, Nissan Ebrahim ? Ah, mais bien sûr, Nissan Ebrahim, oui. Et c'est ça, le phénomène qui fait que, il y a un dédoublement de personnalité devenu complètement normal. Aussi bien pour la personne qui joue le double jeu, que pour son entourage qui accepte maintenant cette nouvelle identité comme la véritable.
Quelles ont été les réactions des proches quand vous les avez contactés sur les réseaux sociaux ou en vrai par le biais de contacts communs ?
C'est vrai qu'ils n'avaient pas pensé que cette fille avait un rôle aussi important. Pouvait constituer pour Daesh une cible. Parce que finalement, elle ne faisait que écrire des choses sur Facebook, comme tout le monde le faisait, que donner des informations que beaucoup de gens avaient, que faire savoir ce qui se passait à Raqqa. Elle n'était pas la seule. Et un petit peu cette sidération qu'il y a eu chez les uns et les autres, pourquoi elle a été exécutée. Elle garde ce côté, il y a un côté mystérieux. Pourquoi Daesh a été tellement gêné, et on a tellement voulu à cette fille qui finalement n'a rien fait d'autre qu'informer. Mais c'est vrai que bon, la paranoïa de ces mouvements extrémistes devient après incontrôlable. عمرك ما تقول عيد عمرك ما تقول فتيه عمرك ما تقول فتيه عمرك ما تقول فتيه قالك هذه هي الدنيا هذاك هو الموجود 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 تقف كيدي ترجع عمرك ما تقول عيد عمرك ما تقول فديد عمرك ما تقول فديد عمرك ما تقول فديد في بالك الدنيا حاجتها بيك حاجتها بيك حاجتها
Votre enquête aussi, la part des réseaux sociaux est très importante, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous ont permis les réseaux sociaux dans cette enquête ?
Ah ben tout ! Bon, d'abord, évidemment, c'était sur son profil Facebook que j'ai trouvé le trésor, un petit peu, de toute sa page, qui a été d'ailleurs, je ne sais pas par qui, par ses proches, ça je ne l'ai pas su, qui a été fait comme une page souvenir, qui est restée donc sur Facebook après sa mort. Et... sur tous les réseaux sociaux, ça m'a permis de contacter des gens, certains que je connaissais, certains que je ne connaissais pas, et j'ai pu, à travers nos relations communes, nos amis communs, avoir des témoignages de plein de gens qui la connaissaient, ou qui étaient à Raqqa, ou qui ont pu enrichir mon récit, me donner davantage de témoignages sur ce qui se passait quand elle raconte une manifestation qu'elle a vue, elle, sur YouTube. Là, j'ai pu avoir, par exemple, des jeunes qui avaient effectivement participé à cette manifestation. Et donc c'était enrichissant, ça m'apportait tout le complément d'informations dont j'avais besoin et le complément vivant de témoignages. C'était d'autres témoignages qui se sont ajoutés aux siens pour compléter le tableau.
Vous avez aussi rencontré des témoignages et des personnes qui sont sorties de Raqqa, des réfugiés notamment en Turquie.
Oui. Oui, c'était une part essentielle. Comme je dis, il y a beaucoup de jeunes de ces mouvements engagés qui ont dû partir pour fuir l'État islamique. Et oui, je suis allé en Turquie, où je vais régulièrement d'ailleurs. Je les ai rencontrés, j'ai passé des heures avec eux. L'un me menait vers un autre et il me racontait aussi bien le Raqqa que ce qu'il savait de cette jeune femme et donc ils ont complètement réussi. J'ai passé des heures, j'ai même retrouvé des gens proches de sa famille, mais je continue à devoir protéger un certain nombre d'entre eux parce que certains ou sont à Raqqa ou ont de la famille à Raqqa.
Et ce n'est qu'à la fin du livre que vous écrivez le véritable nom Rukia Hassan de votre héroïne. Est-ce un choix ?
Oui, à vrai dire, je crois que dès le début, on ne sait pas très bien ce qu'elle va devenir. Mon idée, c'était que le lecteur ne sache pas au départ, enfin pour maintenir un petit peu le suspense, ne sache pas au départ que je suis en train de parler d'une personne qui n'existe plus, qui a été exécutée, qui a disparu. Donc je déroule son récit pour la rendre le plus vivante possible, aussi pour la montrer dans... là, au moment où elle est la plus expansive et la plus énergique et pleine de vie et de vivacité au quotidien, etc., à travers ces années, il fallait pas que je dévoile dès le départ qu'elle allait disparaître. Et c'est pour ça que j'ai choisi que, oui, à la fin de faire ça, en... tout à fait à la fin, de révéler effectivement qui elle était, son vrai nom, sa vraie destinée et comment j'en suis arrivée à la découvrir.
Finalement, ce n'est qu'à la fin qu'elle devient l'Antigone que vous décrivez dès le début, pour le coup.
Bah, elle a été l'Antigone parce qu'à plusieurs reprises dans ses propres postes, elle sait, elle dit... j'ai choisi un combat, j'ai choisi un espoir, et s'il ne se réalise pas, eh bien, je préfère ma mort. Il y a plusieurs postes qui commencent, enfin, qui disent, bon, ben, si ça va me valoir d'être tué, eh ben, tant pis. Donc, c'est ce côté Antigone. Il faut que je fasse ce que je veux faire, ce que je pense. Je suis convaincue, selon mes convictions, selon mon engagement, hein, même si ça va me coûter ma vie, même en sachant que ça va me mener à la mort.
Longtemps effacée, Nissan n'a pris part aux événements qu'en écrivant sur les réseaux sociaux, comme tant d'autres enfants des printemps arabes. Mais dès lors que des barbares ont envahi son quotidien, tué ses espoirs et menacé son avenir, elle s'est lancée dans un combat qu'elle savait suicidaire. En dépit des menaces et des dangers encourus, elle n'a pas cessé de dénoncer les atrocités de Daesh. Irrésistiblement guidée par ses idéaux, sa révolte et sa haine des monstres qui ont dévasté sa vie et son pays. Dans un dernier message envoyé en privé à ses amis, Nissan Ibrahim écrit :
je suis à Raqqa et j'ai reçu des menaces de mort. Quand Daesh m'arrêtera et me tuera, je serai en paix. Parce qu'ils couperont ma tête, mais pas ma dignité. C'est mieux que de vivre dans l'humiliation.
Est-ce que vous êtes sur la piste d'autres Antigones syriennes de Raqqa ou d'ailleurs en Syrie ?
Oh, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dire quand on pense à tous les, à tous ceux qui ont été tués pour leurs convictions, pour leurs engagements, à commencer par les manifestants qui ont été tués par les forces de l'ordre au début de la révolution. Ensuite, ceux qui ont été emprisonnés, sachant que les tortures dans les prisons du régime syrien, on sait qu'il y a des dizaines de milliers de morts qui sont morts sous la torture. Donc, ce phénomène de cette Antigone, oui, je dirais que quelque part, tous les Syriens, les militants qui se sont engagés dans le combat, quelles que soient à plusieurs étapes, savaient qu'ils risquaient leur vie. Et bon, ça a toujours été l'un des premiers slogans de la révolution syrienne, la mort plutôt que l'humiliation. Ils se sont soulevés contre la corruption, l'humiliation et pour la dignité. Donc ce combat pour la dignité était un combat jusqu'à la mort. Et il y en a beaucoup qui ont rencontré cette mort justement.
Et pour vous, cet engagement dont on parle, et cet engagement de cette fille, comme de d'autres activistes en ligne ou en réalité, est-ce que pour vous, ça rejoint votre propre engagement ?
Oh non, je n'ai pas ce courage. Bien sûr, moi, j'ai été prise par ce combat, j'ai complètement, plus que sympathisé, j'ai été emportée par cette mobilisation, cet engagement total, risqué, mais je ne peux absolument pas me comparer à cette génération ou à un tel dévouement. Moi, j'ai fait mon travail un peu de journaliste, j'allais sur place dans des conditions... Bon, il y a toujours un risque quand on va dans un pays en conflit, mais ça n'a rien à voir avec les risques qu'ont pris ces gens qui sont engagés, sachant qu'ils descendaient, sachant qu'on allait leur tirer dessus, qui allaient jusqu'après, jusqu'au siège d'Alep, les secouristes qui allaient secourir les gens, sachant que les bombardements aériens allaient s'abattre sur eux. Je crois que là, il y a une dimension qu'on ne peut même pas imaginer. Et bon, autant je suis... admirative, complètement gagnée par ce combat, autant jamais je ne me comparerai aux sacrifices que les Syriens sur place ont été prêts à donner pour leur cause.
Par contre, vous les aidez aussi dans leur combat, vous écrivez un livre sur l'une d'entre elles et vous les aidez aussi en faisant des formations, donc en instruisant et en transmettant votre rôle de journaliste à ces jeunes gens.
Je ne sais pas si je les aide, en tout cas je leur rends hommage. Je couvre leurs activités, c'est ce que j'ai toujours fait. Je reprends leurs témoignages, je les fais exister, je porte leur voix en quelque sorte. Au-delà de la Syrie, au-delà des réseaux sociaux, dans le journal, dans Libération, etc., où j'ai continué, par exemple, pendant le siège d'Alep, à prendre des témoignages de gens qui étaient assiégés sous les bombes, etc. Je faisais ça tous les quelques jours et publié dans Libération. Je suis là pour porter leur voix, pour qu'ils soient entendus au-delà de leur environnement direct, syrien ou arabe ou autre, et bon, c'est tout ce que je peux faire, mais c'est mon métier aussi de le faire.
Merci à vous.
Merci.
21 juillet 2015. Ces jours-ci, je pense au repos, à la paix, à la sécurité, à la tranquillité. Peut-être les rencontrerai-je un jour, par hasard.
Ces derniers posts clôturent la page Facebook de Nissan Ibrahim en ce sinistre été 2015.
Pâle septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre. Mal si tendre au début de novembre devint sourd aux avances de l'amour. Mais quel mal me prit de m'éprendre de lui.
Merci à Hala Kodmani, son livre « Seul dans Raqqa » est publié par les éditions Équateur. Bravo à Constance Léon qui signe cet entretien. Je profite des quelques minutes qui nous restent pour partager avec vous une lecture qui m'a ravi. Il s'agit d'un texte publié sur le blog Parole d'une Western, signé par la journaliste camerounaise Alexandra Chuile. Son titre « Ma première fois, si douloureux et délicieux ». Je vous laisse imaginer de quoi parle ce texte tout en précisant que vous faites probablement fausse route. Ce billet de blog est extrêmement astucieux et nous sommes fiers de l'héberger sur la plateforme Mondoblog portée par Camille Deloche, Marie-Stéphanie Servos, Constance Léon et Simon Decreuse qui vient de consacrer plusieurs jours de vacances à la refonte de la plateforme. Au lieu de se reposer l'esprit et les yeux, notre cher Simon s'est battu avec du CSS, de l'HTML, de l'HTTP, du DNS, du FTP et autres forces obscures, tout cela au lieu donc de se consacrer au jardinage et éventuellement au pair à pair, comprendront ceux qui peuvent.
Ma première fois, si douloureux et si délicieux, par Alexandra Tuileux. Je n'étais pas obligée d'y aller. Je voulais faire comme tous les autres. Ils paraissaient si bien et si libres après avoir franchi ce pas. Ils n'en étaient pas à leur première expérience. La sensation, ils la décrivaient entre connaisseurs et davantage entre connaisseuses. Ils se vantaient de leurs exploits réels ou imaginaires, rappelaient les figures qu'ils avaient reproduites et pour lesquelles ils seraient bien inspirés de graver sur une pierre pour ne rien oublier, pour ne rien perdre du moment. « Tu es trop sage, tu écoutes trop ce qu'on te dit. Lâche-toi un peu, amuse-toi un peu. Nous, on y allait et aujourd'hui, on ne regrette rien. » Et moi, je les écoutais, ébahie, envieuse, curieuse. Alors, je décidais de franchir le pas.
La suite est à lire sur mondoblog.com. www.lia.org. Je signale que ce texte fait partie de ce que nous appelons un Mondo Challenge, c'est-à-dire une mini compétition interne à Mondo Blog où trois contributrices, contributeurs s'imposent un thème commun et écrivent chacune, chacun un article sur ce thème. Salut à toutes et à tous. Cela fait presque 2 ans que notre confrère Ahmed Abba est privé de liberté pour avoir fait son travail de journaliste au Cameroun. Il est temps que cela cesse.
Quand on se promène aujourd'hui dans les rues de Raqqa, il faut retenir toutes ses émotions, se débarrasser de tout sentiment et faire le repos. Sinon, on souffre énormément et on creuse sa tombe avec sa langue trop déliée. Comme je le fais.
L'héroïne de ce livre est une page Facebook, un pseudo, Nissan Ibrahim, et une photo. Le visage d'une jeune femme encadré d'un bandeau doré pour atténuer le noir de son voile, le sourire ourlé de rouge, le regard rehaussé d'épais sourcils et d'un fard à paupières couleur jade. Pourtant, sous ses allures de provinciale endimanchée, Nissan Ibrahim n'a pas sa langue dans sa poche. Dès la lecture de ses premiers mots, j'ai compris que j'étais face à un personnage déroutant. Passant de réflexions profondes à des anecdotes légères, tantôt rebelles, tantôt midinettes, bigote ou cynique, ingénue et hardie, cette fille à l'esprit impétueux ne pouvait se résumer au portrait figé de son profil Facebook.